RFI, il est 16h à Caracas, 21h à Paris et 20h en temps universel.
Guillaume Ouattara.
Et à la une de cette nouvelle édition, direction le Venezuela, avec une investiture sous haute tension. Nicolas Maduro reconduit pour un troisième mandat contesté dans un pays marqué par la répression et une crise économique sans précédent. Réaction internationale plus que mitigée. Aux États-Unis, des pans entiers de Los Angeles réduits en cendres, plus de 10 000 bâtiments détruits, au moins 10 morts et des pertes estimées à 150 milliards de dollars face à des incendies parmi les plus dévastateurs de l'histoire de la Californie, en grande partie dû au réchauffement climatique, vous l'entendrez. Dans le journal également, le Liban, entre défis politiques et économiques, le nouveau président Joseph Aoun entame son mandat dans un pays où 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté et où les consultations pour former un gouvernement s'annoncent ardues. Et puis en France, Bercy, au cœur des consultations entre retraites contestées et revendications sociales, le ministre de l'économie et des finances, Éric Lombard, clôt une semaine de dialogue avec partis et syndicats pour tenter d'apaiser les tensions et de dégager un consensus. On ouvre donc cette édition au Venezuela où Nicolas Maduro vient d'être investi président pour la troisième fois consécutive. Alors que sa réélection est contestée dans le pays et dans le monde entier, une prise de fonction qui s'est faite dans la tension. La capitale Caracas est quadrillée par les forces de l'ordre et en présence de peu de chefs d'État étrangers. Les précisions sur place d'Alice Campagnol.
Ils étaient peu nombreux à la cérémonie d'investiture de Nicolas Maduro. Sans surprise, il y avait le Cubain Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega du Nicaragua, mais aussi le président de la Douma, le Parlement russe. Les pays européens ne reconnaissent pas la victoire de Maduro. Ils n'ont donc pas envoyé de représentants, pas même leurs ambassadeurs ici à Caracas. Malgré la désapprobation internationale, Nicolas Maduro s'est vu remettre l'écharpe présidentielle pour 6 ans de plus. Et dans son discours, il s'est félicité d'avoir su déjouer les conspirations et il a répété comme un mantra « Le Venezuela est en paix ». Un pays en paix où pourtant des forces de l'ordre ont été déployées sur tout le territoire. Ici, la capitale, Caracas, est quadrillée par des militaires et des policiers et les frontières sont extrêmement surveillées. Celles avec la Colombie ont même été fermées unilatéralement par le Venezuela. En effet, Edmundo González avait promis de rentrer dans son pays pour y être le prochain président. Il revendique la victoire à l'élection du 28 juillet. Mais c'est bel et bien Nicolas Maduro qui vient de prendre ses fonctions aujourd'hui. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Quelques réactions à l'international. D'abord en Russie, où le président Vladimir Poutine a félicité son homologue et allié vénézuélien Nicolas Maduro pour son investiture. Son cloche bien différent du côté des États-Unis qui condamnent fermement cette investiture pour un troisième mandat, la qualifiant de simulacre illégitime. C'est le secrétaire d'État Anthony Blinken qui a fait cette déclaration. Aux États-Unis, justement, le président américain Joe Biden a déclaré ce vendredi que Los Angeles, en proie à des incendies dévastateurs, ressemblait à une scène de guerre. Il faut dire que depuis mardi, ces incendies continuent de faire des ravages, mais une légère accalmie se dessine. Au moins 10 personnes ont perdu la vie et plus de 10 000 bâtiments ont été détruits dans ce qui pourrait devenir l'un des incendies les plus coûteux jamais enregistrés, avec des dommages estimés entre 135 et 150 milliards de dollars. Si le vent faiblit, offrant un peu de répit aux pompiers, 5 foyers majeurs restent actifs et des centaines de milliers d'habitants ont été évacués. Face à des pillages dans les zones sinistrées, les autorités ont instauré un couvre-feu dans les quartiers de Pacific Palisades et d'Altadena où des militaires ont été déployés. Pour le professeur Roger Balz de l'université de Berkeley en Californie, le réchauffement climatique favorise ces méga-feux. Je vous propose de l'écouter.
Events like we're seeing in Los Angeles right now with hot, dry, windy conditions.
Les incendies que l'on voit à Los Angeles actuellement, avec la chaleur, la sécheresse et le vent, sont plus fréquents avec le réchauffement climatique que lorsque j'étais jeune avec un climat plus frais. Donc si l'on veut réduire l'intensité et le développement de ces feux, la question est, qu'est-ce que l'on peut contrôler? Oui, nous pouvons contrôler la végétation qui alimente et renforce ces feux. Nous pourrions également avoir des températures qui ne soient pas si élevées, mais cela signifie s'attaquer sérieusement au réchauffement climatique et arrêter de consommer des énergies fossiles. fossiles. Et la troisième chose, c'est le vent. Mais là encore, cela dépend du réchauffement climatique. Quand vous regardez les études, la force du vent a été bien supérieure à tout ce que nous avons connu ces dernières années.
The extreme winds of recent years.
Des propos recueillis par Igor Strauss pour RFI. L'administration de Joe Biden a annoncé vendredi un ensemble inédit de sanctions ciblant l'industrie pétrolière et gazière russe avec l'objectif de réduire les revenus financiers du Kremlin, tout en offrant à Kiev et au président élu Donald Trump un levier dans les négociations pour la paix en Ukraine. Direction le Liban qui tourne une nouvelle page. Joseph Ayoun, commandant en chef de l'armée libanaise et désormais président, entame son mandat dans un pays, il faut le dire, meurtri, paralysé par une crise économique historique, divisé par des blocages politiques et encore marqué par les cicatrices de la guerre avec Israël. Lors de son discours d'investiture, Ayoun a promis un redressement à tous les niveaux, mais les attentes sont élevées. Dès lundi, il doit entamer des consultations avec les députés pour nommer un premier ministre. La correspondance à Beyrouth de Paul Khalifé.
Joseph Aoun a été élu président après une vacance de plus de 2 ans à la première magistrature qui a entraîné un blocage systématique de toutes les institutions à un moment crucial de l'histoire du Liban. Le premier acte du chef de l'État sera de nommer un premier ministre et de former un nouveau gouvernement pour remplacer celui de Najib Miati, chargé d'expédier les affaires courantes depuis mai 2022. Avec des pouvoirs limités, le gouvernement sortant était paralysé, alors que le Liban est sommé par la communauté internationale de procéder à des réformes économiques structurelles pour bénéficier d'une aide financière cruciale. La formation d'un nouveau gouvernement permettra de relancer l'administration publique, qui fonctionne depuis des années au ralenti, ou parfois pas du tout, et va redynamiser une justice paralysée. Le président, seul habilité selon la Constitution à signer des accords internationaux, pourra s'employer à renforcer la trêve fragile avec Israël et accélérer le retrait israélien du Sud-Liban. Autre dossier épineux qui attend Joseph Aoun, les relations avec les nouvelles autorités syriennes. Il devra négocier le tracé des frontières et relancer le projet du retour de 2 millions de réfugiés et déplacés syriens accueillis au Liban. Paul Khalifé, Beyrouth, RFI.
Et notez que 5 personnes ont été tuées vendredi dans une frappe israélienne sur le sud du Liban. C'est l'annonce du ministère libanais de la Santé. Et ce, malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis fin novembre entre Israël et le Hezbollah. Selon l'armée israélienne, un avion militaire a ciblé un camion transportant des armes du Hezbollah à Tahrir Deba, à environ 20 km au nord de la frontière. Israël affirme avoir agi conformément aux accords de cessez-le-feu, mais cette frappe intervient alors que les tensions persistent sur la mise en œuvre de cet accord. RFI 20h07 en temps universel. En France, les autorités ont annoncé la résiliation des contrats d'association entre l'État et le groupe scolaire musulman Al-Kindi près de Lyon en raison de manquements pédagogiques et d'atteinte aux valeurs de la République. Cette décision impliquant la fin des subventions publiques prendra effet le 1er septembre 2025 selon la préfecture. Parmi les motifs évoqués, des ouvrages contraires aux valeurs de la République, des contenus religieux dans les enseignements obligatoires et un règlement intérieur jugé discriminant pour les filles, la préfecture dénonce en outre une proximité de l'établissement avec la pensée des frères musulmans. Sur le volet politique, en France toujours, fin de semaine de consultation à Bercy entre le ministre de l'économie et des finances, Éric Lombard, et les forces politiques. C'était au tour du Rassemblement national d'être reçu aujourd'hui, mais aussi de Sophie Binet, la numéro 1 du syndicat CGT. Cette semaine, les discussions ont beaucoup tourné autour de la controversée réforme des retraites. La gauche et les syndicats réclament sa suspension. Et ce vendredi soir, à Bercy, Éric Lombard a pris la parole pour faire le point sur ces consultations. Prise de parole que je vous propose d'écouter au micro RFI de Victorien Villaume.
Nous avons reçu l'ensemble des forces politiques qui ont souhaité nous rencontrer, venant de l'Assemblée nationale et du Sénat, et puis également les partis. Nous avons présenté la situation des finances publiques. Nous avons écouté, nous avons dialogué. Je veux d'abord saluer l'esprit de responsabilité et de transparence qui a animé toute cette semaine, qui, je pense, nous permettra d'avancer. Nous transmettrons demain au Premier ministre la synthèse de ces travaux et nos conclusions. Le Premier ministre, naturellement, tranchera et présentera, dans le cadre de sa déclaration de politique générale, les conclusions que nous tirons de cette semaine de concertation.
Le ministre de l'économie et des finances, Éric Lombard, au micro RFI de Victorien Villaume. Il est 21h et quasi à 10 minutes. L'information est de retour dans 50 minutes sur la radio du monde. Tout de suite, vous retrouvez Couleur tropicale sur RFI.